Donc la question de Nathaniel, comment se fait-il que s'il faut habiter en terre d'Israël, qu'il y a des rabbins qui habitent l'étranger?
Alors,
on a vu qu'il y a une des conditions qui permet de quitter la terre d'Israël, c'est d'aller sauver des juifs. On parle de sauver le corps des juifs, d'accord, des juifs qui sont en danger au niveau physique. Mais nous savons très bien que la Torah nous dit « Gadol ha martyot termina orgo » plus grave est de faire pécher un juif que de le tuer. Comprenez ce que ça veut dire. Si quelqu'un vient ici veut se faire recevoir à la yeshiva, il me dit j'avais des copains un peu religieux, et puis j'aurais parlé, on est allé en ville, après ils sont allés en boîte, et puis. Il dit je suis un peu responsable que, à cause de moi, pour finir, ils ont rencontré des filles, ils font des averotes, etc. Je regrette vraiment terriblement. Je fais tchouva, maintenant je vais être un bon juif, je suis un yeshiva. Bon, je le reçois sans problème. Un autre vient, il me dit je fais tchouva, qu'est-ce que t'as? Oui, bon, j'ai un passé quoi? Ben, on a vu des copains comme ça, puis ils m'ont énervé, j'ai pris un poignard et j'ai tous tués. Mais j'ai fait tchouva et. J'ai fait tchouva et je regrette, maintenant je me retiens. Alors, qui d'entre vous est prêt à le prendre dans sa chambre, d'accord? Et s'il y a récidive, on m'accusera de comment les parents vont m'appeler, comment vous laissez mon fils dans une chambre avec un assassin, tout ça. Néanmoins, comprenez à quel point Chazal disent non. C'est clair que le type qui a pris ses copains en boîte, les a incités à faire des avérotes, eh bien, il est plus grave. Son cas est plus grave qu'un assassin. Gadol a martyot termina orgo. C'est un truc qu'on ne comprend pas, comme je vous ai dit. Personne n'acceptera d'avoir un assassin, non. Ça veut dire que dans l'impact métaphysique, c'est plus grave. Parce que quand tu tues un corps, tu as tué un corps. Qu'est-ce que c'est un corps? Un corps, c'est une vie. C'est vrai, c'est énorme. Et on peut autoriser presque toute la Torah pour ne pas. Pour sauver une vie. Mais néanmoins, la vie physique, elle est dans le monde du fini. 80 ans, 100 ans, 100 ans, 120 ans, 150 ans, ok. Mais l'âme, elle est éternelle. Et quand quelqu'un, tu touches son éternité, c'est l'éternité que tu as touchée. Et ça, nous sommes tout à fait inconscients de cela. Dans cette mesure, si la Torah autorise de quitter la terre d'Israël pour aller sauver des corps, à plus forte raison qu'elle autorise de quitter la terre d'Israël pour aller sauver des âmes. Donc s'il y a des rabbins, et il en faut, des cadres communautaires à l'étranger, qui sont là-bas pour aider la communauté, pour les rapprocher de la Torah, c'est permis et même souhaitable. Moi-même, j'ai envoyé des gens à l'étranger pour aller, aujourd'hui ils font un très grand travail à Paris, entre autres, d'accord, et bien au Hachem. C'est vrai que pas tous les rabbins sont d'accord avec ça. Rav Chaim Kanievski, donc on ne soupçonne pas d'être de la tranche, on va dire, sioniste. Quand on parle sioniste, il faut comprendre, le monde sioniste vrai, en tout cas le monde sioniste vraiment, qui veut que les juifs habitent la terre d'Israël et qui fait tout pour cela, c'est le monde orthodoxe. Parce que comme j'expliquais dans la dernière fois, la raison pour laquelle nous sommes en galoute, c'est le fait de ne pas pratiquer la Torah suffisamment. C'est pour ça que nous avons quitté la terre d'Israël pour aller sur place ramasser les étincelles. Mais s'il y a ici de la kdusha, de la sainteté, de la Torah, de la mitzvot rigoureuse comme il faut bien, orthodoxe, c'est certain que c'est ça qui fait que les juifs viennent en terre d'Israël, parce que, quelque part, le travail se fait depuis la terre d'Israël. Il y a l'étiquette sioniste, des gens qui sont religieux aussi, mais qui mettent un très grand accent sur la terre d'Israël. Ils disent des bêtises du type « mieux vaut habiter la terre d'Israël en tant que Mechalel Shabbat plutôt que Paris en tant que Shomer Shabbat ». C'est faux, c'est archi faux, d'accord? Parce que si on prend une hiérarchie maintenant dans la Torah, t'as les mitzvot les moins graves, on va dire, dont la sanction est moins grave, c'est les mitzvot des Rabbanan. T'as une mitzvah positive des Rabbanan, après t'as une mitzvah négative des Rabbanan, après t'as une mitzvah positive de la Torah, après t'as une mitzvah négative de la Torah, après t'as une mitzvah négative de la Torah qui est sanctionnée par le karet ou la mort du Bedin, et enfin tu as Chilul Hashem. D'accord? C'est 6 degrés, je dis ici. Des Rabbanan positifs, après des Rabbanan négatifs, je vais donner quelques exemples. Des Rabbanan positifs. Faire le loulav et le hetrog les 6 jours de soukha ou 7 à l'étranger après le premier jour. Le premier jour, c'est de la Torah. Les autres jours, c'est une mitzvah des Rabbanan. Autre mitzvah des Rabbanan positive. Écoutez la Megillah, le jour de Pourim. Allumez les bougies à Hanouka. Ce sont des lois positives. Après, négatif. Négatif des Rabbanan. Par exemple, quelqu'un qui mange de la viande qui n'a pas été salée, donc il y a encore du sang dans cette viande, le sang est interdit de la Torah. Mais quand c'est du sang cuit, il n'interdit que des Rabbanan. Que des Rabbanan. C'est quand même grave, d'accord ? Manger un hamburger avec un gruyère dessus comme ça qu'on mange, c'est un interdit des Rabbanan. La Torah interdit que le fait de manger du lait et de la viande qui sont bouillis ensemble. Elle interdit de bouillir, elle interdit de manger bouilli, elle interdit de profiter de viande et lait bouilli. Mais si c'est pas bouilli, j'ai pris mon hamburger, j'ai mis mon gruyère ensemble, je mange les deux ensemble, gruyère et hamburger, d'accord, c'est pas cuit ensemble. C'est interdit des Rabbanan. Néanmoins, c'est clair que personne d'entre nous va faire une chose pareille. Ou tu prends un poulet, une cuisse de poulet que tu cuis dans du lait. D'accord? C'est un essour des Rabbanan, c'est pas un essour. D'Oraïta. C'est quand même déjà un degré négatif. Après, les lois positives de la Torah, Metit Filin, positive, Mezuzot, d'accord, tout ce qui est positif, le loulav, premier jour, manger la massa le soir de Pessah, etc. Tout cela, c'est positif. Après, négatif, pas manger de viande, taref, pas manger de porc, pas manger quand quelqu'un mange une seule petite bébête, d'accord, ça dépend si elle vient de la mer, du sol ou des airs, il peut transgresser de 4, 5 ou 6 interdits de la Torah à la fois. Une petite bébête comme ça. Faire attention donc de bien vérifier les fraises, les framboises, et toutes les sortes de... D'accord, il y a des gens qui mangent végétarien. Ils croient qu'ils mangent végétarien. D'accord. Dans une feuille de salade, ils ont un parc zoologique. Shogeg. Alors, dans tout ce que je suis en train de dire maintenant, il y a toujours mésite, ça veut dire, il y a 3 degrés. Il y a shogeg, c'est involontaire. Tu ne savais pas qu'il y avait, tu ne savais pas. Mais fallait vérifier, mon cher. Ça, c'est, on appelle shogeg carole mésite. C'est un shogeg involontaire, mais proche de volontaire. Après, t'as volontaire. Tu sais, on te dit, mais dedans, il y a une bébête. Il dit, oh, ça va, c'est pas si grave. Hop, il la mange. D'accord? Ça, c'est volontaire. Et un, on lui dit, attends, j'ai ici une feuille de salade. Elle est propre. Eh ben, exprès, je mangerai celle avec le parc zoologique pour montrer que j'en ai rien à faire de vos histoires. Et il le mange. Ça s'appelle, c'est pécha. D'accord? Ça, c'est l'achis. C'est très grave. C'est beaucoup plus grave. Honnête, c'est considéré comme rien. Honnête, c'est quelqu'un qui a été contraint malgré lui, d'accord? On lui a ouvert la bouche, on lui a mis le truc de salade malgré lui dans la bouche. Il peut rien faire. On l'a contraint à faire. Il a aucun péché là-dedans.
S'il a vérifié et que, bon, après, il s'est avéré que quand même, il y avait encore une petite bébête.
S'il a vérifié et il s'est avéré comme une petite bébête, il est shogeg, c'est involontaire. C'est pas honnête. Donc ça, c'est dans chacun des 6 degrés, donc positif, négatif des Rabbanan, positif, négatif, karet et Chilul Hashem de la Torah, tout ça, il y aura toujours shogeg, mezid et l'achis, shogeg involontaire, mezid volontaire, l'achis exprès pour embêter. Donc on était maintenant à négatif. Après, t'es négatif sanctionné par le karet, tel que manger à Kippour, transgresser Shabbat, manger du pain à Pessah. Toutes les relations sexuelles sont interdites par le karet. Qu'est-ce qu'on a encore? Monter sur l'esplanade du temple, alors que nous sommes tous impurs. L'endroit où il y a la mosquée d'Omar, tout ça, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. Manger du sang, le sang du premier, du jet, il y a un jet puissant quand on égorge la bête, il y a un jet qui sort, ce sang-là est interdit de karet. Bon, il y a 36 sortes de karet qu'on peut lire dans Il Chot Shgagot du Rambam. D'accord, là-bas, il cite toutes les interdits karet qu'on a cité ça il y a quelques semaines ici, je ne vais pas le refaire maintenant devant vous. Et quatrième, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profanation du nom de Dieu. D'accord, que quelqu'un a fait une chose interdite par la Torah en public, et à cause de ça, le nom de Dieu est profané. Ou quelqu'un qui, comme j'ai dit auparavant, il fait une chose exprès pour embêter. Ça, c'est du Chilul Hashem. Mais s'il le fait tout seul dans sa chambre, il a le choix maintenant entre la plaque de chocolat taref ou la plaque de chocolat kasher, et elles ont exactement le même goût. D'accord? Mais il prend exprès la taref, parce que là, il n'en a rien à faire. D'accord? Mais il fait ça de façon volontaire. Alors, c'est considéré comme du Chilul Hashem. Là, c'est le plus grave. Alors, à part Chilul Hashem, on a donc la deuxième tranche, c'est les interdits sanctionnés par le karet ou par mort du beddin à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de peine capitale, mais il y avait aussi à l'époque des peines capitales. Il y en a 4 degrés, du plus grave au moins grave. La plus grave, c'est lapidation. Après, c'est c'est qu'il a serefa, être brûlé, herek, tué par l'épée, henek, étouffement, strangulation. D'accord ? Strangulation, c'est le moins grave, c'est par exemple une femme mariée qui couche avec un homme. L'homme et la femme sont encourent la peine capitale par strangulation. Après, bon, tout ça, c'est tout à fait théorique. Aujourd'hui, il n'y a pas de peine capitale. Mais néanmoins, c'est grave, d'accord ? Ça nous montre un peu la gravité du péché, que du temps, on aurait dû subir cette peine. Après, on a Hereg. Hereg, c'est tué par l'épée. C'est quelqu'un qui est assassiné, d'accord ? On le tue par l'épée. Srefa, c'est des cas très exceptionnels, comme une fille de Cohen qui est mariée, qui trompe son mari. Là, elle n'est pas comme le cas habituel d'étouffement. C'est par Srefa, on doit la brûler. C'est pas qu'on la brûle. On dit une technique, voilà, du plomb fondu, etc. Et Sekila. Sekila, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le niveau le plus grave. D'accord ? Attention, tous ceux qui, du temps du temple, chaque fois qu'il y avait une peine capitale, que s'il y avait deux témoins qui te disaient « Attention, tu te rends maintenant l'interdit X, que si tu le fais, tu encours la peine capitale Y. » Et il dit « J'en ai rien à faire », et quand même il le fait. Ça, il faut y aller, d'accord ? C'est rare. Sinon, s'il a transgressé sans qu'il y ait l'avertissement des deux témoins, il encourt néanmoins la sanction du karet, retranchement de l'âme. Donc aujourd'hui, qu'il n'y a pas de peine capitale, dans tous les cas, c'est karet. Simplement, quand il y a une peine capitale, c'est plus grave en soi. Et on a vu qu'il y a 4 degrés de gravité. Le plus grave, c'est lapidation. Quel interdit est sanctionné par lapidation ? Chilul Shabbat. Shabbat, tu prends un stylo et tu écris ton nom. Mon nom n'est pas trop long, c'est pas anticonstitutionnellement, c'est Ron, R-O-N, d'accord ? C'est pas fatigant, c'est pas si grave, ou bien je gomme le nom. C'est encore plus facile, d'accord ? Pour écrire un autre nom à la place. Ou bien, j'avais maintenant des petits pois. Alors, un petit pois, il y avait un caillou qui me dérangeait. J'ai pris le caillou, j'ai mis de côté. D'accord ? Borer ! Du temps, mon cher, il y a deux témoins, ils t'ont dit... Attention, tu te rends maintenant interdit d'Horaïta de Borer ou de Kotev que tu as écrit et tu pètes en cours la sanction capitale de ce qu'il a. Moi, je leur fais non, j'en ai rien à faire. Allez, à l'époque, c'était lapidation. Alors, comment un homme sensé qui a appris un minimum de Torah, ce que je viens de vous dire, c'est après 2 mois de Torah, on sait tout ça, d'accord ? Il y a une hiérarchie. Il peut dire que mieux vaut transgresser l'interdit le plus grave de la Torah, Chilul Shabbat, qui est sanctionné par lapidation à l'époque du temple, c'est le plus grave dans le Horaïta, à part Chilul Hashem, pour faire la mitzvah la moins importante de tout, mitzvah assez des rabbins, d'après le Rambam, la Lachaï comme Maïmonide, qui dit que c'est une mitzvah assez d'habiter la terre d'Israël. Interdit, sofrim, c'est les rabbinim ont interdit quitter la terre d'Israël. Et même après le Ramban, Nachmanide, qui dit que c'est d'Horaïta, ok, c'est une loi positive de Rabbanan. Comment tu peux maintenant légitimer, dire c'est mieux vaut transgresser un interdit de la Torah le plus grave, quitte à faire la mitzvah d'habiter la terre d'Israël? C'est tordu. Tordu, d'accord? C'est non-Torah. C'est absolument idiot. Je vais me faire huer, mais tant pis, d'accord. Mais c'est la Torah. La Torah ne changera pas, même si on se fait huer. Peu importe. Donc, le Rav Chaim Kanievski, qui n'est pas soupçonné de faire partie de l'étiquette sioniste, c'est un noir, black, ultra-orthodoxe de Bnei Brak. D'accord ? Super black. Il n'est pas d'accord. Quand des gens viennent lui dire, j'aimerais une bracha maintenant, ou j'ai une proposition maintenant d'aller faire du kirouv à l'étranger. Je vais maintenant ramener des juifs à la Torah à l'étranger. Il dit, mais dis-moi, dans ton quartier, là, le quartier à côté, ils ont tous fait tchouva, que tu vas maintenant à Paris. Tellement c'est important pour lui, c'est pas un sioniste de l'éthique sioniste, c'est un black ultra-orthodoxe. Parce qu'on quitte pas la terre d'Israël. Certains rabbinim autorisent, d'après cet alinéa dans les paroles du Rambam, qui dit que si tu sors maintenant pour aller sauver des juifs, tu peux. Mais aussi pour revenir. Alors, si les rabbins, et je répète, si les rabbins sont à l'étranger pour ça, hein, oui, mais si c'est parce que, quoi, qu'est-ce que j'en sais, moi, il aime bien la France, d'accord, et puis, à part venir faire la Kriyat HaTorah, Shabbat, il ne fait pas grand-chose, puisque il fait fuir les juifs, les bons juifs de sa synagogue fuient, parce que tellement il est tordu, ça arrive, il y a des rabbins comme ça tordus, ça arrive aussi, hélas. Alors c'est certain qu'il n'a rien à faire là-bas, que tant qu'à faire qu'il vienne en terre d'Israël. Ça, c'est au niveau théorique. Maintenant, c'est pas si simple de venir en terre d'Israël. Il y a un problème pécunier. Ici, c'est la terre sainte. Saint, c'est quoi saint? Ça veut dire différent de ce qui est... C'est métaphysique, c'est pas physique. Alors, tel que le nom l'indique, la Terre Sainte, c'est l'endroit où tu peux monter du point de vue métaphysique, mais pas au niveau physique. Il est très dur de faire fortune en Israël. Il y en a, mais c'est pas normal à la rigueur, d'accord? C'est une Terre Sainte. Ici, on vient pour Dieu. Tu veux maintenant la vie à l'aise, facile? La France. Reste en France. C'est beaucoup plus facile, c'est clair. Ici, c'est marqué qu'il y a trois choses qui s'achètent avec souffrance. Tout ce qui a de la valeur s'achète avec souffrance. La vraie valeur, dans l'éternité, dans Dieu, d'accord? La Torah, c'est la pensée de Dieu. Olam Haba, c'est la proximité de Dieu. Et la terre d'Israël. C'est dur. C'est dur. La crise de l'âme, quand tu fais ton aliyah, elle arrivera tôt ou tard. Il faut s'y attendre, hein, homme ou femme. C'est normal. Tu rentres dans un monde de jungle. D'accord? C'est un pays difficile. Combien de gens sont venus ici et ont été dépouillés? Mais c'est quand même la terre de Dieu. Ici, on vient chercher Dieu. Donc, c'est pas facile, mais si tu as le choix, c'est clair. Tu demandes à un rabbin, c'est clair, tu montes en Israël. Alors, Abraham Kanievski a statué, c'est dans un interview qu'a fait le journal Contrat, c'est environ un an et demi de Abraham Kanievski, il a dit comme ça. Chaque juif qui est à l'étranger de France, pour la lia de France, si du point de vue pécunier, du point de vue de la parnassa, de son gagne-pain, il peut s'arranger, il a le mystère de quitter la France et venir ici. À moins qu'il ait une mission spéciale, comme j'ai dit, une mission spéciale d'enseigner la Torah, etc., de rapprocher des Juifs. Mais si il a son business, il est employé de banque là-bas, il peut être employé de banque ici, ok, tant qu'à faire, tu viens ici. Pas tant qu'à faire, tu dois venir ici. Les Bnei Torah, les étudiants de Torah, Abraham Kanievski l'a dit, là, donc c'est vrai, dans cette interview de la revue Contrat, c'est dit, même s'ils n'ont aucun moyen technique de pouvoir s'arranger ici au niveau pécunier, qu'ils viennent. Parce que la Torah, en France, elle ne vaut pas grand-chose. À peu près comme ça qu'il a dit, c'est même un peu pire, d'accord? Elle ne vaut pas grand-chose par rapport à l'étude de Torah en Israël. Comme c'est marqué dans le Talmud, « En Torah, c'est Torah d'Israël. » Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Israël. Ça n'a rien à voir. Ici, tu es dans le domaine de Dieu. Mais si vous êtes au paradis, là, comprenez bien, une fois une métaphysique, vous êtes au paradis. Paradis, là. Ça sent. Et vous me direz alors que pécuniairement, il dit « Dieu aidera ». Ça sera difficile, mais on peut s'arranger. Au pire des cas, t'es venu, t'as pas réussi, tu repars. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut la peine d'essayer. Parce que la Torah d'Eretz Israël, elle vaut énormément. T'as rien à faire en France. Maintenant, c'est pas tout. Je m'excuse avant. Il y a plusieurs problèmes. Il y a, ok, moi du point de vue de la Torah, théoriquement, je vais venir en Israël, c'est beaucoup mieux. Pécuniairement, on a vu, il y a le statut des Bnei Torah, le statut des autres. Il y a l'éducation des enfants. Ici en Israël, le monde juif est extrêmement compartimenté. C'est pas comme tu as en France l'école juive et on reçoit tout ce qui est juif plus ou moins, ça va, ça rentre. Ici, tu as des camps. Tu as le monde orthodoxe. Tu as le monde orthodoxe light. Tu as le monde PNR, Parti National Religieux, on appelle la Mizrahi, le Mizro, d'accord? Tu as là-dedans aussi, tu as plus ou moins fort. École Marti Dati, tu as après laïque, et tu as déjà laïque pro-arabe, c'est-à-dire que arabe et juif mélangés dans la même classe. Tu as tout l'éventail ici. Maintenant, toi, tu arrives de France, bon juif, qui aime bien Israël, le mari étudie 2-3 heures par jour la Torah, la femme s'habille just, d'accord, la halakha dit qu'il ne faut pas qu'on voit, ça doit arriver au moins aux genoux. Bon, c'est bon, mais dès qu'elle s'assied, tric, ça rebote sur les cuisses, d'accord. Les cheveux, bon, elle couvre les cheveux, mais la moitié des cheveux sortent à l'extérieur. Bon, ça rentre pas ça rentre pas du tout dans le moule orthodoxe. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Et aussi, eux ne veulent pas rentrer. Ils voient ça, noir, black, d'accord. Là, ils ont peur, d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent dans leurs enfants, qu'on leur conseille, l'agent juif, tout d'autres autres agents, d'accord, mauvais agents, qui conseillent des écoles qui sont plus light. Qui sont tout simplement, j'ai pas honte de le dire, d'accord, des usines à faire des non-religieux. Les gens sont là-bas vaguement avec la kippa, après ils font 3 ans d'armée, à l'armée, après l'armée d'habitude ils sortent, ils vont faire 1 an encore autour du monde, et il reste que la kippa encore de temps en temps. Très, très, très light. Si on n'est pas dans un cadre ici en Israël très rigoureux au niveau de l'éducation, les enfants partent en cacahuète. Et même dans le monde rigoureux, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. C'est pas facile. Au niveau de l'éducation, c'est un gros problème. Et là, s'il y a une bonne raison peut-être de ne pas monter en Israël, c'est qu'on ne trouve pas un endroit adéquat pour l'éducation des enfants. Alors, il faut tout faire pour oui trouver, et ça existe. En cherchant bien, on trouve. Et des fois, il faut se mettre au diapason. Un peu, changer un peu, être un peu plus compatible au moule. Mais ne pas tomber dans le piège qu'on va trouver une école, on dit c'est bien, machin, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et pour finir, on s'étonne pourquoi nos enfants entre 18 et 25 ans, ils quittent tout. Ils quittent tout. Parce que c'est aujourd'hui, en Israël, c'est pas comme en France. En France, il y a les non-juifs et nous. Et c'est un peu différent. Il y a certaines... On met quand même... D'habitude, le monde, je parle maintenant de juifs qui sont conscients de leur identité juive et qui sont traditionnalistes au moins, et même assez pratiquants. Donc, ils comprennent qu'on n'est pas les mêmes exactement, on ne mange pas au même endroit, on ne danse pas au même endroit, on ne va pas au même endroit, etc. Ici, en Israël, on est entre juifs. Donc, tout se rend par là. Il part. Soi-disant entre juifs, parce que Ashdod, Natania, d'accord, en boîte, t'as pas que des juifs. Natacha, mais les Russes, ok, mais Russes juifs ou Russes goy? On sait que trois quarts des Russes, ils sont pas juifs. Tatiana, t'en as pas à Paris, Tatiana, des Christines, c'est Tatiana, c'est vachement plus intéressant, d'accord. Les pieds noirs, ils voient une blonde, ils se mettent à disjoncter. Donc le danger est énorme. Donc il y a beaucoup de gens, de cas, hélas, de gens qui font leur aléa, et eux, plus ou moins, ça va, mais les enfants partent en cacahuète. Donc l'aléa, oui, mais aléa, ça veut dire monter en Israël. Tu montes en Israël pour monter, pas pour descendre. Si le prix de monter en Israël, c'est descendre, reste en France. Mais l'idéal, monter en Israël, oui, absolument, oui, de toutes nos forces. Surtout que, si on fait un calcul à moyen terme, d'accord, c'est évident. À moins d'un miracle ou des cas extrêmement exceptionnels, quelqu'un religieux qui reste en France, parmi ses petits-fils, il y aura forcément déjà de l'assimilation. Toi, t'es froum, tes enfants sont froum, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu... Forcément, il y en a qui sont déjà un peu plus tièdes. Le tiède, à tous les coups dans ses enfants, t'as déjà, tout à coup, une goya qui fait « Coucou, je suis là, d'accord, j'adore les juifs, et tatati, tatata. » Donc, à long terme, il y a le danger énorme de l'assimilation. Il faut bien comprendre ça. Donc, rien que pour ça, ça vaut la peine de venir en Israël. Attention, en Israël aussi, il y a l'assimilation. Comment se passe l'assimilation? Comme je dis, il y a Tatiana et Natacha. Mais il y a une autre assimilation. C'est que ici, ce qui prend 2-3 générations à perdre en France de judaïté, on le perd en 2 ans. C'est un pays rapide ici, d'accord? Le passage de Froum à Fraï, il est extrêmement rapide. Alors, quelqu'un qui est frère, qui est non religieux en Israël, combien de temps il tient? Attends, lui, il tient en Israël. Mais ses enfants, ils disent, pourquoi je reste dans ce pays? Il y a l'armée. 3 ans. Après, chaque année, t'as les milouim. T'as des bombes. T'as des impôts. T'as le masarnassa. T'as de la délinquance juvénile terrible. T'as des exemples. En France, on est pépère. Je suis français. En Amérique, encore mieux. Je vais au Canada. D'accord? Pépère! Qui te dit que ton fils israélien non religieux, il va rester en Israël. Combien il y a d'Israéliens aux USA? Au moins 1 million, si pas 3 millions d'Israéliens, pas de juifs, d'Israéliens. En Thaïlande, toutes les semaines, il y a un séminaire type Arachim de Baal et Tshuva pour les Israéliens qui sont là-bas. En Thaïlande. Pas pour les Thaïlandais, pour les Israéliens qui sont là-bas. Donc, c'est pas une garantie, je monte en Israël et ça y est, je suis sauvé du danger de l'assimilation. On monte en Israël pour monter en Israël. Et quelqu'un qui monte dans cette ville de condition, Baruch haba, bienvenue. Ça sera difficile, mais tu gagnes tout. Tu as le gros lot, celui qui peut être ici. Je suis rentré vendredi soir chez moi, la maison, ce Shabbat. Je regardais comme ça le panorama, puis chez moi, je dis, mais quelle chance on a d'être en Israël. Calmement, combien de temps Am Israël a attendu ce moment-là? Les prophéties, elles parlent de ça. Oh, des chamans, ben encore on entendra, ben, Rayouda dans les montagnes de Juda, ou dans la quartier de Jérusalem, Kol Sasson, le son du Sasson de la joie, le son de l'allégresse, d'Achatan et d'une Kala, de Marie et Marie. Mais c'est tous les jours comme ça, c'était des prophéties. Qui l'eût cru? Là, t'es là. T'aurais dit à 150 ans à ton ancêtre, je serais en Israël, à l'échelle, j'ai dû la mise, mettait à pleurer. Quoi? Un beau jour, on viendra à nous, une terre à nous, à Yerushalayim, mais tu la Torah. Tranquillement. C'est le paradis. J'ai pas de... Je vais le répéter, c'est le paradis. Alors, qui peut dire je ne vais pas essayer? Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Y a-t-il des questions? Oui.
J'ai dit au tout début par rapport au rabbinim, vous avez parlé de cas de rabbin qui habite en Israël, qui partira en France.
Oui.
Mais la question où le rabbinim habite déjà en France.
Oui.
J'expliquais. Alors, si le rabbin en France, il fait un travail effectif et sa présence est utile, très bien.
Non, mais là, il est né en France.
Il est né en France. Et à quoi là? Il est né en France, il a mis ça comme bon jeu de monter en Israël, c'est clair. Maintenant, il dit non. Pourquoi? Parce que si je suis utile à ma communauté, tu restes. Je suis inutile à ma communauté, ou très très peu, hein, dégage. Prends ta communauté avec toi et montez tous ensemble. Encore mieux. Oui.
Mais vous avez dit quelques trois choses pour qu'on puisse sortir d'Israël.
Oui.
Donc, par exemple, ça veut dire que si on est baro et le soleil habite en France, on a pas droit de rentrer.
Non. Si. Non. Ah. Bien que Maïmonide ne cite pas la mitzvah de Kibbout Avehem, donner à ses parents qu'il faut une légitimation de quitter Israël pour y aller, néanmoins, pour aller voir ses parents à l'étranger, néanmoins, déjà, les post-crimes décisionnaires actuels ont dit que oui, à condition qu'on revienne. Mais si ton père dit, reste avec moi, désolé papa, tu sors, je vois le Ham Ovadia, le Rav Ovadia Yosef qui dit non, il n'y a pas de Kibbout Avehem, on ne peut pas sauter le Kibbout Avehem pour monter en Israël. Moi, je vous dis, regardez, une fois, c'est mon meilleur, quand je me suis marié, mon meilleur copain de Suisse, il est venu à mon mariage. Pris l'avion, il est venu, tout ça. Bon. Deux ans après, ou quelques années après, il s'est marié lui aussi. Ben, normal que je prenne l'avion, que j'aille aussi à son mariage. La moindre des choses. Bon. Ma femme dit, je veux aussi venir. Ouais, mais quand même, qui quoi, les enfants, machin, tout ça. Ben, bon, je vais voir le Rabbi Nissan Abba Shaoul, Zatzal. Je lui dis, voilà, je dois partir pour aller voir le mariage de mon copain, mon meilleur ami, il est venu à mon mariage. Donc je vais y aller, ma femme aussi veut venir. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, non, comment on fait? Alors, il m'a dit, pourquoi ta femme veut venir? Parce que toi, tu y vas. Si tu y vas pas, elle y va pas, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi toi tu y vas? T'as pas le droit d'y aller. Quoi que j'ai pas le droit d'y aller? Non, mais c'est juste un jour, tac, tac, quitter Israël. Mais lui venait à mon mariage. Si je vais pas, c'est l'archouma, je peux pas, la moindre des choses. Interdit. Entendez bien?
Sandak
pour aller à l'étranger. Question. L'ODA.
C'est
non, c'est non. Ouais, ok. Et que vous avez, c'est pas. Ouais. Que vous avez, on peut aller retour. Ouais. Pardon?
Le mariage de sa soeur, par exemple.
Je pense qu'on peut savoir de qui vous avez. Si tes parents ne te voient pas là-bas, ils sont très outrés, donc tu peux.
Vous n'avez pas été, du coup?
J'ai pas été. Hein? Non, j'expliquais, il a compris que c'est le Rav dit, Alors Benson, c'est pas un petit, hein, c'est un gros énorme. Je veux dire.
Les Israéliens n'ont pas voyagé.
Hein?
Les Israéliens n'ont pas
voyagé. Si ce n'est, est-ce que les Israéliens ont le droit de voyager à l'étranger? Ça dépend, d'après les critères, on a vu. Si c'est pour business, parce qu'il n'y a pas de business ici, il peut pour revenir.
Non, pour voyager en vacances.
Voyager en vacances, non? Ça veut dire quoi? À moins qu'il y ait des cas extrêmes. Quelqu'un, par exemple, il a besoin parce qu'il n'y a aucun endroit, un trip qui est très connu. Par exemple, je connais un ami, il est très connu. Il n'y a aucun endroit où je peux être tranquille. Ok, alors il est parti en Suisse quelque temps à la montagne. Ça va, parce qu'il a besoin pour après pouvoir donner la Torah, etc. Ok, ça c'est bon. Mais ça m'intéresse d'aller en Turquie. Je n'ai jamais vu la Turquie, d'accord? Pour tourisme, ça ne va pas. Jamais de la vie.
Tous les
chabats
qui partent
aux États-Unis. Ah, ils vont aider.
Qui vont à New York pour les fêtes. C'est plein de
chabats
qui partent.
Ouais. Ouman. Il se prouve qu'on peut aussi, pour aller pèleriner sur la tombe des Tzadikim, on peut faire un voyage à l'étranger. Mais, ok, comme le Rav Ovadia Yosef, il a écrit une choua là-dessus, il a dit, je comprends pas. À Rosh Hashanah, on quitte maintenant Jérusalem pour aller à Ouman. À la terre d'Israël, qui tu as ici? T'as Avraham Yitzhak Yaakov. Alors, tout le kavod, Rav Nachman de Breslev, c'est un grand rabbin. Avraham Yitzhak Yaakov. Rachel Imenu. T'as ici Shmuel HaNavi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Breslev, ils disent que Rabbi Nachman, c'était une étincelle de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Une étincelle. T'as la totale, là, ici. Rabbi Shimon Bar Yochai. Va à Méron. Qu'est-ce que tu vas à Ouman, chez les Russes, Ukrainiens, leur donner de l'argent? Bon, alors, il y en a qui s'allument là-bas. Ok, très bien. Ça va bien. Ça peut aller. Mais, regardez, ici, il y a 150 ans environ, il y a eu un tremblement de terre terrible à Tzfat. Ici, à Yerushalayim, il n'y a rien eu. Et à Gavan, passant, c'est marqué dans les décisionnaires que jamais un tremblement de terre n'a fait de dégâts, de mort, de mort ou de blessés ici à Jérusalem. Impossible. Il y a une sorte de promesse pareille que c'est impossible. À Tzfat, ça fait beaucoup de dégâts. Et les rabbins m'ont dit, c'est Tzfat, c'est Jérusalem qui a revendiqué son honneur. Parce que les gens allaient plus à Tzfat qu'à Jérusalem. Quoi, je comprends pas. Moi, je suis Yerushalayim. Et les gens vont à Tzfat. Terrible. Terrible. Et ça, c'est en Israël. Quelqu'un, il va aller à Ouman, il va aller à Paris, il va aller à New York. C'est à Yerushalayim. Je comprends pas.
C'est-à-dire que la terre
est
un peu vivante
en quelque sorte. Elle est plus que vivante. C'est la terre de Dieu, il n'y a rien. Rabbi Nachman de Breslav, si on parle de lui, si je me souviens bien, un de mes élèves qui est devenu Breslav, il m'a raconté ça, il dit, on a l'impression en Israël que les choses sont naturelles. Il n'y a rien, que c'est du surnaturel à 100%. Ça veut dire que tu crois que c'est naturel, c'est surnaturel, c'est tout sous Ashgacha, tout est providence. Regarde, j'ai parlé l'autre jour, les miracles qu'on a durant la guerre d'Israël. Tzahal sont bons. Faut pas charrier. D'accord? Tu te bats à un soldat contre 10. La guerre des 6 jours. T'es bon. Ouais, tu peux pas être. C'est miraculeux. C'est pas possible.
Ça se voit.
Ça se voit. Ok. Donc, ouais, ça se voit. Toi, tu vois surnaturel. Si vraiment tout le monde voyait, tout le monde ferait tchouva. Barak, ce tordu là, le ministre de la Défense, je crois qu'il a dit après la guerre de Gaza. Il n'y a eu aucun miracle. C'est que nous, nous. D'accord? Et les anges qui sont battus, j'étais témoignage ici, j'ai fait un cours, ça s'appelle le bouclier d'Israël, d'accord. On a témoignage ici d'anges, alors qu'ils sont battus.
On a retrouvé ceux qui ont pleuré là, après, comme vous avez dit dans une vidéo sur internet, comme quoi on allait retrouver les deux qui ont témoigné, comme quoi ils ont vu Rachel
Imenu. J'ai demandé de rechercher, je ne sais pas aujourd'hui si cette histoire elle est vraie ou fausse, d'accord. C'est un bruit qui a couru tout ça, mais le coup des anges, ça c'est un truc que je suis le clérichon, d'accord. J'ai entendu du type lui-même, qui n'est pas un rigolo. Qui n'est pas un rigolo.
Non, il y a des commandants arabes, des généraux.
Ouais, généralement aussi, ouais. Et vous allez voir bientôt quand l'Iran va attaquer. J'imagine que ça. On verra. On verra la main de Dieu. Durant la guerre de Gaza, maintenant, je raconte l'histoire du kollel. Il y a un kollel dans le port de Ashdod. Ils n'ont pas d'abri. Je crois qu'il y avait la sirène, ils descendaient dans un petit grenier à côté. Ils se mettaient l'un à côté de l'autre comme ça, très très serré, il n'y a pas beaucoup de place pour un endroit un peu protégé. De toute la guerre, il y a eu une seule bévue, une gaffe énorme qu'a fait Tzahal. Il y a eu un missile qui est tiré de Gaza et la sirène n'a pas été actionnée. Et où tombait ce missile? Dans ce grenier. Si la sirène avait été actionnée, tout le monde serait descendu dans le grenier. Il n'a pas sonné. Comment ça se fait un truc pareil? On ne sait pas. C'est un miracle parmi 10 000 miracles. 10 000 miracles. Alors ne me dis pas maintenant qu'on n'a pas eu ça pendant 2 000 ans d'histoire. Je ne l'ai pas entendu avec les Cosaques, avec l'Inquisition, avec la Shoah. Je n'ai pas entendu. Il y a eu des petits miracles. Mais des trucs aussi grandioses. T'as pas. C'est clair que Dieu, il est là. Les yeux sont sur cette terre du début de l'année à la fin. Les yeux de Dieu. À sa présence, il est là. Il fait attention à tout. Tout. Aussi à l'étranger. Mais c'est comme ça, comment dire. C'est moins. Moi, c'est dans le domaine des autres, ici, c'est dans ton domaine à toi, c'est notre terre. Si Rachid nous dit que les mitzvot n'ont pas d'heure à l'étranger, si ce n'est ici et on les fait à l'étranger pour pas oublier comment. Ça veut dire que c'est là, la Torah elle est là, tout, voilà, on est revenu. Après, quel pays on a été en galoute partout, on est revenu, tu fais encore la fine bouche. Allez, vite. C'est bon, messieurs? Alors, ceux qui sont là, ils restent là, et ceux qui sont pas là, ils viennent vers Hachem très bientôt. Baruch Adonai, Amen.